Laudetur Jesus Christus.
Le jubilé 2025 sera porté par l'espérance, car celle-ci ne déçoit jamais, affirme le pape François. C'est le titre de la bulle d'indiction proclamant l'année sainte. Elle a été en partie lue lors des secondes vêpres célébrées en ce moment même par François à Saint-Pierre. À Gaza, si un enfant regarde dans le vide, il ne rêve pas mais cherche ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire de quoi manger. Témoignage glaçant d'humanitaire sur les conditions de vie des enfants à Gaza. Nous ne permettrons à personne de nous menacer, discours de Vladimir Poutine sur la place Rouge aujourd'hui, à l'occasion des commémorations de la victoire soviétique sur les nazis. Aujourd'hui, les forces occidentales étaient l'ennemi. Et puis enfin, ce jeudi, en cette journée de l'Europe, comment construire la paix meurtrie aujourd'hui? Focus sur les enseignements des saints patrons de l'Europe.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Le pape François a donc officiellement proclamé le jubilé 2025 ce jeudi soir lors de la célébration des secondes vêpres qui est donc toujours en cours à Saint-Pierre. La porte 5 de la Basilique Vaticane sera la première à ouvrir le 24 décembre prochain, marquant le début de cette année jubilaire de rémission des péchés mais aussi d'espérance. L'espérance chrétienne illuminera ce jubilé 2025. C'est ce que nous voyons tout de suite avec Myriam Sandounou. Elle a lu pour nous la bulle papale proclamant le jubilé.
L'Église se veut dans sa mission porter le flambeau de l'espérance afin que notre témoignage de foi dans le monde soit un ferment authentique d'espérance. Spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas. C'est d'ailleurs le titre de la bulle d'indiction du jubilé 2025 dans laquelle François souhaite que le signe de l'espérance se traduise par la paix pour un monde plongé dans la guerre, ce qui pousse beaucoup à s'exiler. Le pape demande que les attentes des migrants ne soient pas contrariées par des prises jugé. Pensant également aux prisonniers, il appelle à des conditions dignes de leur détention et à l'abolition de la peine de mort. En signe plus concret de proximité, le pape ouvrira lui-même, selon le document, une porte sainte dans une prison. Autre point évoqué qui inquiète François, la baisse de natalité. Pour le pape, l'ouverture à la vie est le projet du Créateur inscrit dans le corps des hommes et des femmes. Il urge qu'ils aient le soutien convaincu des croyants et communautés, car le désir des jeunes d'engendrer de nouveaux enfants comme fruit de fécondité de leur amour, donne son avenir à toute une société. François, dans sa bulle, nommait pas les malades ou encore les jeunes, voyant parfois leurs rêves brisés, ont besoin d'espérance. La remise de la dette des pays pauvres a été également demandée.
Merci Myriam Sandounou. Demain matin, Monseigneur Fisichella, le pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation, sera l'invité de notre dossier. Si vous voulez tout savoir sur les jubilés, une tradition remontant à l'an 1300 et au pape Boniface VIII, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Vous y retrouverez bien évidemment aussi la synthèse de la bulle proclamant le jubilé à venir. Est-ce un signe d'espérance? Va-t-on vers une trêve au Proche-Orient? Les délégations du Hamas et d'Israël ont quitté ce soir le Caire pour référer de l'avancée des négociations de ces deux derniers jours dans la capitale égyptienne. Sur le terrain, la situation demeure inchangée après les menaces américaines. Les troupes israéliennes restent aux portes de Rafah. 80 000 personnes seraient parvenues à quitter sur ordre d'Israël la partie est de la ville. Israël évoque une opération d'ampleur limitée concernant l'évacuation des civils vers des zones dites plus sûres, aménagées au nord, vers la mer. Plusieurs ONG redoutent l'offensive de grande ampleur promise par Israël sur Rafah. La situation humanitaire étant déjà sur place extrêmement précaire. Olivier Bonnel.
Depuis sa prise de contrôle mardi par l'armée israélienne, le point de passage de Rafah au sud de l'enclave est fermé. Deux autres accès sont en revanche ouverts, celui de Eretz au nord de la bande de Gaza et de Kerem Shalom au sud. Une situation qui ne modifie en rien le drame humanitaire à Rafah, alerte les ONG, en particulier le sort des enfants. Alexandra Assayet est en charge des opérations humanitaires à Save the Children.
Quand vous marchez dans Rafah, le nombre d'enfants que vous voyez qui ont perdu un de leurs membres est stupéfiant. Vous voyez des enfants avec des problèmes de croissance, d'autres qui ont un cancer mais qui n'ont pas de traitement. Des enfants qui sont tellement affamés et des personnes âgées dans la même situation qu'ils peuvent à peine marcher. Ces personnes ne peuvent pas être amenées pour être relogées dans une zone, dans ces soi-disant zones surhumanitaires. Ce n'est juste pas
pas possible.
Il y a quelques jours, l'UNICEF tirait déjà la sonnette d'alarme, expliquant que le déplacement d'enfants traumatisés et affaiblis par 6 mois de guerre ne ferait qu'empirer une situation déjà critique. Les heures à venir vont être décisives pour de nombreux humanitaires. Le pédiatre américain John Keller est le cofondateur de l'ONG Med Global.
On est maintenant à un tournant. Si l'on parle de statistiques comme un groupe d'enfants entre 5 mois et 5 ans, eh bien 100% des enfants souffrent. 100% de la population est actuellement démunie. Et s'il vous plaît, n'oublions pas que le premier effet de la faim, c'est la douleur.
Rafah, où se trouvent les derniers combattants du Hamas qu'Israël veut neutraliser, semble être suspendu aux décisions de Tsahal. Déjà 80 000 personnes auraient fui la ville, ont annoncé ce jeudi les Nations Unies.
Olivier Bonnel, et ce soir l'Iran relâche 7 membres d'équipage d'un cargo saisi dans le Golfe par des gardiens de la Révolution mi-avril. Le navire battant pavillon portugais était soupçonné d'être lié à Israël. Le Portugal se réjouit ce soir, exigeant néanmoins la libération des 17 autres personnes toujours retenues. Europe, j'écris ton nom à un mois de l'élection présidentielle. L'Église, par la voix de la Comessée et de l'envoyé du Pape pour la paix en Ukraine, l'Église appelle à effacer les barrières et défenses dressées pour travailler ensemble à cette maison commune qu'est l'Union européenne. En cette journée de l'Europe, nous revenons ce soir sur un des enseignements des saints patrons de l'Europe, la fraternité, à vivre en petite ou grande communauté. C'est ce que nous explique le père Jean-Baptiste Arnaud, co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins.
C'est par l'apprentissage très concret d'une fraternité, comme une réalité concrète vécue, y compris avec des gens qu'on n'a pas choisis, avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est vrai dans un monastère bénédictin, c'est vrai dans un carmel, c'était vrai pour Edith Stein aussi dans son travail philosophique, où elle a beaucoup travaillé cette question-là, et elle l'a vécue. Elle l'a vraiment éprouvée comme un lieu de fraternité, un lieu de parole aussi. C'est ça qui est très beau avec Cyril et Méthode, c'est dans la manière dont ils ont évangélisé les peuples slaves en apportant la parole de Dieu, en apportant aussi, au fond, la parole elle-même, la culture, le langage, un alphabet, etc. Tout seul. En fait, c'est cette expérience d'une vie commune, communautaire, on pourrait dire fraternelle, dans des unités plus ou moins petites, un monastère, une famille, un pays, qui permet en fait de s'ouvrir à d'autres unités plus grandes.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Il veut nous empêcher de témoigner de ce qu'il se passe en Méditerranée et de sauver des vies. En Italie, les ONG portant secours aux embarcations de fortune en route pour l'Europe s'alarment. Elles s'alarment de la décision prise par l'autorité de contrôle de l'aviation civile italienne. Elle leur interdit désormais de survoler la mer à la recherche de migrants. S'ils le font, leur appareil pourrait être saisi. Ils ont marché parfois pendant des jours. Des dizaines de milliers d'Arméniens ont convergé ce jeudi vers Erevan pour protester contre le transfert de terres à l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre en effet approuvé la restitution à Bakou de villages frontaliers saisis en 1990. Ce jeudi même, après la visite de Nikol Pachinian à Moscou, la Russie annonce le retrait d'Arménie de certains de ses soldats sur le terrain. Et à Moscou, la Russie célébrait aujourd'hui le 79e anniversaire de la victoire des troupes soviétiques contre l'Allemagne nazie, l'occasion pour Vladimir Poutine, fraîchement investi, de prononcer un nouveau discours après le traditionnel défilé sur la place Rouge. Jean-Didier Revoin.
À l'occasion des célébrations du 9 mai, Vladimir Poutine a une nouvelle fois développé une rhétorique anti-occidentale. Le président russe a dénoncé les ambitions dangereuses des Occidentaux, estimant que tout le monde essayait de détruire les mémoriaux en l'honneur des anciens combattants, soulignant encore que les élites occidentales voulaient faire oublier l'exploit des troupes soviétiques et leurs 27 millions de morts contre les forces du Troisième Reich. N'hésitant pas à qualifier ce 9 mai de fête sacrée la plus importante de Russie, Vladimir Poutine a précisé que Moscou ferait tout pour éviter un nouvel affrontement mondial, mais pas à n'importe quelle condition pour autant. Nous ne permettrons à personne de nous menacer, a lancé le chef de l'État russe à l'adresse des Occidentaux. Dans un froid glacial, le président russe a passé les troupes en revue dans des célébrations moins fastueuses qu'à l'ordinaire pour des raisons de sécurité. Seuls quelques chefs d'État, dont les présidents Bélarusse, Kazakh, Turkmène ou Cubain, étaient présents aux côtés de Vladimir Poutine. À noter encore que des célébrations ont été annulées toujours pour des raisons de sécurité dans plusieurs régions situées à proximité de la frontière ukrainienne. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Et ce soir, l'Ukraine revendique une frappe de drone contre une raffinerie russe à 1200 km de sa frontière. Fin de la tournée européenne de Xi Jinping en Europe. Après Paris et Belgrade, le président chinois a salué la force des liens unissant son pays à la Hongrie. Des relations comparées à une croisière dorée par le président Xi entre coopération économique florissante et convergence de vues sur l'offensive russe en Ukraine. Un pays endeuillé, le Brésil. Les inondations sans précédent qui ont frappé le Rio Grande del Sul ont fait plus de 100 morts, 130 disparus. Le pape a fait don à la population de 100 000 euros aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Une excellente soirée à tous.